Eh bien, je vous dis bonsoir, je vous remercie d'être là et je vais tenter, non pas de répondre, mais de donner quelques éléments de réponse à la question suivante. Qu'est-ce qu'un sage à partir de ce livre que je viens de publier chez Plon, Les héros de la sagesse. La première chose, c'est que quand nous utilisons aujourd'hui l'adjectif sage en disant aux enfants « sois sage », il est terriblement dévalorisé. Nous leur demandons finalement de rester tranquilles, de ne pas faire trop de bruit, de ne déranger personne, comme si être sage voulait dire ou pouvait, a fini par vouloir dire simplement être soumis, ne rien perturber. Et quand on prend une sage décision, ça n'est pas toujours très téméraire, ça n'est pas non plus très provocant, ça n'est en fait souvent qu'un signe peut-être de raisonnable, mais finalement souvent de résignation. Les comités des sages, ce sont des experts dont souvent on ne lit pas les rapports sur des questions techniques et peu de vagues aussi de ce côté-là. Alors que il fut un temps, disons pendant toute l'Antiquité, aussi bien en Orient qu'en Occident, où chacun, qu'il soit charpentier, maçon, cultivateur ou lettré, savait qu'il y avait des gens qui consacraient la totalité de leur existence à devenir, à tenter de devenir sage. Si aujourd'hui vous connaissez quelqu'un dans ce cas, faites-moi signe. Si parmi vous ou parmi vos amis ou les enfants de vos amis, vous avez quelqu'un, qu'est-ce qu'il veut faire ? Ben, il veut devenir sage. Ah bon ? Ben, cela aussi, en un sens, c'est perdu de notre horizon. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne sachions plus du tout ce que veut dire sage. Je crois que nous continuons, en même temps que nous avons dévalorisé tout à fait le terme dans la vie quotidienne, à entendre quelque chose d'une forme d'exception, de grandeur, de perfection que les grands figures, les grands sages de l'Antiquité avaient atteint ou dont on dit qu'ils avaient atteint. Cet état paradoxal, assez difficile à décrire, qui est d'abord un état d'une grande diversité. Si, au lieu de s'intéresser à la sagesse en général, on regarde ce que sont les sages, ou ceux qu'on a dénommés comme ça, on tombe sur de drôles d'énergumènes, et des gens très différents, très divers les uns des autres. Le livre s'ouvre simplement par quatre portraits, que je ne vais pas prendre tout au long, mais dont je voudrais simplement rappeler la diversité. Diogène, dans les rues d'Athènes, la génération d'après Socrate, Platon dit de lui, c'est un Socrate devenu fou. Diogène qui veut finalement retrouver la vie dans la nature, mais pas en quittant la cité, pas en sortant pour vivre dans les bois comme les ermites indiens. Retrouver la nature pour lui veut dire se défaire de tous les carcans de la vie civilisée, de toutes les hypocrisies de la politesse, de tous les objets inutiles, et il vit au vu de tous. Ce qui signifie que il pisse dans les rues, et un peu plus, qu'il se masturbe en public, qu'il ne travaille pas, qu'il vit. Alors la légende veut que ça soit un tonneau. Les archéologues nous ont appris que c'est plutôt une citerne, mais en tout cas un petit réduit. Et surtout, c'est un sage provocateur, inattendu, qui correspond mal à l'idée de sérénité que nous avons habituellement, et un sage perturbateur. Il ne cesse, finalement, de houspiller ce qui passe, de provoquer ses contemporains, de tenter un jour où il entre au théâtre quand tout le monde en sort et donc où il fend la foule qui, elle, s'en va. On lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et Diogène répond « Ce que je fais toujours. » Autrement dit, je suis toujours et volontairement dans l'autre sens, à contre-courant. En quoi est-ce une forme de sagesse? Sûrement pas la seule. C'est une forme, là, de, en quelque sorte, d'éveil par le geste, par l'exemple, par la provocation, par la perturbation. Il y a quelque chose qui peut ressembler chez Diogène à un geste de perturbation permanent. Si, changeant de lieu et d'époque, on prend le bouddhiste mystique Milarepa comme deuxième figure, on aura une tout autre. On est vers le 11-12e siècle de notre ère. Et Milarepa, dont le nom signifie vêtu de coton, passait pour être capable de rester dans les neiges de l'Himalaya, dans les pleins vents, sans autre vêtement que son petit coton, parce qu'il était aussi censé maîtriser son souffle, produire sa propre chaleur. J'ignore si tout cela est réel ou imaginaire, mais il appartient aussi à certaines figures de sages d'être en quelque sorte suffisamment intégré dans l'univers, suffisamment ancré dans ce qui est censé être la puissance ou les puissances cosmiques pour disposer de pouvoirs qui nous paraissent tout à fait en dehors des capacités humaines. Et Milarepa, qui développe à la fois sous la forme poétique et sous une forme de type philosophique, la suite du bouddhisme tibétain qui est arrivé, le bouddhisme arrivé au Tibet quelques générations avant lui, vers le 7-8e siècle, eh bien, incarne une autre figure de la sagesse, celle, cette fois, beaucoup plus de la sérénité, de la compassion, du rapport, finalement, à l'évanescence du monde et à la vacuité. En Chine, si on se penche une seconde sur la figure de Lao Tzu, là aussi on ne sait pas s'il a existé vraiment, son nom peut se traduire par « vieux maître » ou « vieil enfant », les deux traductions sont symétriques et possibles, Lao Tzu incarne plutôt une image du sage paradoxal lui aussi, provoquant pour une part, préférant se taire que de parler, et quand il est contraint à dire quelque chose, ne parlant que par aphorisme et par moment par formule lapidaire, celles qui sont rassemblées dans ce livre, par ailleurs admirable, qui est le Tao Te Ching, qui s'appelait d'abord le Lao Tzu, qui portait le nom de son auteur, au moins de son auteur supposé. Nouvelle ou autre figure du sage, et là je vais peut-être lire juste un petit passage du livre, si vous voulez, c'est un livre que j'ai conçu à la fois comme un mélange de récits et d'analyses. Et je commence là par quelques images et quelques récits. Un autre type de sage, c'est Hillel, rabbin des premières années de notre ère. Il est contemporain, grosso modo, de l'empereur Auguste. Et je lis quelques extraits pour vous donner peut-être aussi une sorte d'échantillon de ce mélange de récits et d'analyses. Et je reviendrai après sur l'enseignement possible de ces différentes figures. Jérusalem vers l'an 10 de notre ère. Un bon coup de règle, voilà ce qu'il a reçu. De quoi vous rentrez l'épaule dans la hanche. La règle est raide et rigide, assez lourde, comme celle qu'utilisent architectes et maçons. Le coup est parti directement, sans un mot. C'est seulement après que Chamaille a renvoyé cet impie avec des mots terribles, en le menaçant de le frapper à nouveau s'il n'avait pas déguerpi dans les 2 secondes. Il n'a pas demandé son reste. La blague était pourtant innocente. Irrespectueuse, d'accord, irrespectueuse, mais pas méchante. L'homme était allé demander à Chamaille de l'instruire. Rendez-vous pris, il s'était approché de ce terrible maître avec un air appliqué et sérieux. « Je voudrais me convertir. » Chamaille acquiesça, le visage attentif et grave. « Oui, je voudrais me convertir. Mais je suis assez pressé, je n'ai pas beaucoup de temps. » Chamaille fronça les sourcils sans rien dire. Était-ce encore un de ces imbéciles qui veulent tout, tout de suite, sans même se donner la peine d'étudier ? L'homme poursuivit, sans se démonter. « Eh bien voilà, je me suis dit que tu pourrais peut-être m'apprendre la Torah en vitesse, pendant que je resterai debout sur un pied, et après je me... » Le coup est parti, ça lui apprendra. En fait, non, ça ne lui a rien appris. L'homme était curieux, alors il essaya de nouveau sa blague, sur Hillel, cette fois, pour voir comment cet autre maître allait réagir. Celui-là passait pour impossible à impatienter. On le disait capable d'avoir réponse à tout. Plusieurs fois, ceux qui avaient parié qu'il allait sortir de ses gonds avaient perdu leur pari. On allait bien voir. Rendez-vous pris, même scénario. Quand il entend cette demande de lecture rapide, Hillel ne se démonte pas. Au contraire, il regarde l'homme avec une extrême douceur. Un certain sourire fait passer dans son regard une légère ironie. « Ce que tu souhaites est bien simple. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Voilà toute la Torah. Le reste, ce sont des commentaires. Maintenant, va donc étudier. » L'homme resta sans voix, s'inclina devant celui que, depuis sa jeunesse, en signe de respect, on appelait l'ancien, et partit. Sur une jambe, quelle idée ! Enfin, il n'a même pas eu le temps d'avoir une crampe, pensa Hillel. Ici, nous n'avons pas un sage, mais 2. Et je vous lis la fin du texte en sautant quelques passages. Leur dispute était interminable. Chamaille était exigeant, impatient, enclin à tout prendre à la lettre, disposé à n'entendre la loi que dans toute sa rigueur. Dans le fond, il détestait les nuances, les compromis, les accommodements. Hillel, au contraire, ne laissait jamais les hommes de côté. Acceptait toujours de les entendre, envisageait souvent d'adapter la loi plutôt que de vouloir plier les hommes à des ordres inflexibles. Quand tous deux confrontaient leurs avis, leurs lectures et leurs interprétations, on pouvait presque se demander s'ils parlaient du même texte. Ce n'était pas seulement que l'un était tolérant et l'autre non, l'un souple, l'autre rigide, l'un patient, l'autre pas. Il y avait autre chose. Hillel le comprit un peu plus tard. C'est qu'il faut qu'il y ait, je résume, toujours au moins 2 sages, 2 avis contraires pour que, en quelque sorte, ce débat, peut-être interminable, s'engage. En tout cas, on est là dans quelque chose qui est une spécificité importante, je crois, de la sagesse juive, et qui ne ressemble pas ou qui ne se retrouve pas identiquement dans d'autres formes de sages. On a donc ces figures très diverses, du sage provocateur, du sage mystique comme Milarepa et serein, du sage comme Lao Tzu qui est plutôt à la fois dans la subtilité, parfois l'ironie. Et les sages de l'étude, ceux de la sagesse juive, mais aussi ceux des monothéismes ou des variantes du monothéisme, qui sont beaucoup plus centrés sur le travail des textes. Alors, j'aimerais, à partir de ces premières images, essayer de réfléchir sur ce qu'a été, en mettant peut-être un peu de côté Hillel et tout ce qu'il peut représenter, ce qu'ont été les principaux traits de la figure, de la grande figure antique du sage, telle qu'on la trouve à la fois chez les Grecs, chez les Chinois et aussi en Inde. Il y a une grande diversité, mais me semble-t-il aussi suffisamment de points communs pour qu'il soit possible d'essayer de définir des traits distinctifs de cette figure du sage. Ce qui est au centre, ce sont des paradoxes. Chacun sait que souvent, entre le sage et le fou, les choses peuvent être réversibles. Mais il me semble qu'on peut distinguer quatre paradoxes constitutifs de la figure du sage, quatre paradoxes qui les tiennent, si je puis dire, presque tous ensemble. Je vais les énumérer et en donner ensuite un exemple un peu plus détaillé. Le premier de ces paradoxes, c'est celui qui concerne les liens très particuliers, très différents de ceux des philosophes, que les sages entretiennent avec la parole et le silence. On imagine plus aisément le sage silencieux. Et en même temps, il ne peut pas se taire toujours. Comment s'organise ce passage, cette articulation entre silence et parole chez les sages. On pourrait dire que leur paradoxe central de ce côté-là, c'est de parler de biais, c'est-à-dire d'inventer des modalités de parole qui, en quelque sorte, sont des manières d'arriver à dire quelque chose, mais sans faire effraction dans le silence. Conserver du silence tout en parlant, ou rester du côté d'un silence fondamental, même lorsque on dit quelque chose, voilà, même si ce paradoxe est difficile à penser, un trait qui se retrouve pratiquement chez tous. Un second paradoxe constitutif de la figure du sage antique, et on aura à se demander après comment nous nous en tirons aujourd'hui. Est-ce que nous avons le même regard? Est-ce que le rapport des modernes aux sages fonctionne sur les mêmes paradoxes? Un autre paradoxe, c'est celui du rapport entre l'invisibilité, la dissimulation et la manifestation de soi et de la sagesse. La plupart des sages, c'est très net par exemple chez les taoïstes, se fondent dans le décor, se dissimulent eux-mêmes, font en sorte de n'être pas repérés comme sages, passent pour des anonymes. Très souvent, le sage taoïste, c'est quasiment l'idiot du village ou le paysan que personne n'a remarqué. Il y a chez des soufis iraniens, qu'on appelle les gens de la voie du blâme, une sorte de passage à la limite de cette dissimulation. C'est une école qui apparaît à Nishapur, dans le nord de l'Iran, vers le Xe siècle, mais dont on trouve encore une postérité jusqu'au XVIIe siècle. Donc c'est une très longue école, bien qu'elle ne concerne qu'un relativement petit nombre de personnes. La voie du blâme, c'est l'idée que, à force de se dissimuler, ou bien plutôt pour se dissimuler entièrement, il faut se construire une mauvaise réputation. Et cela donne évidemment toutes sortes de résultats très paradoxaux, c'est-à-dire que pour apparaître saint aux seuls yeux de Dieu, au seul regard, si j'ose dire, divin, et ne pas être honoré par les hommes, que ce qui, à leurs yeux, risque d'être un piège, une forme d'orgueil, alors ils se fabriquent une réputation de blasphémateur, d'impie, d'ivrogne, en tout cas, une mauvaise renommée. Mais ce sage caché ne peut évidemment, c'est l'autre face du paradoxe, pas l'être toujours. Vous n'imaginez un sage qui se tairait perpétuellement, dont personne ne saurait qu'il est sage en aucun cas et qui mourrait dans cet anonymat total, personne, évidemment, n'en saurait rien du tout et on ne voit pas en quoi il serait dit sage. Donc il faut bien que de temps en temps, dans des circonstances particulières ou à des personnes singulières, celui qui se dissimule, cependant, se manifeste et se montre. Alors, il y a toute une série, évidemment, très longue, de tactiques de discernement ou de choix des manifestations. Un troisième paradoxe, c'est celui du rapport entre la dépossession, le dénuement, le lâcher-prise et la maîtrise. Le sage a tout abandonné, mais en même temps, il est censé avoir tout acquis. Il n'a plus rien des biens du monde ou des ambitions habituelles. Il ne cherche ni à faire fortune, ni à acquérir du pouvoir. Et cependant, ayant tout lâché, il est censé, dans pas mal de traditions indiennes ou chinoises, mais chez les Grecs et les Latins aussi, finalement, être tellement lié aux forces cosmiques et à l'univers, tellement fondu dans le cours de la nature, qu'il en détient en quelque sorte la puissance ou participe à cet infini. Un dernier paradoxe, c'est celui du bonheur et de l'indifférence. Parce que les sages sont réputés être heureux. On dit d'eux qu'ils auraient quitté, d'une certaine manière, les misères qui accablent l'humanité, qu'ils ne seraient plus soumis aux impulsions qui sont les nôtres, qu'ils ne seraient plus ballottés par des désirs contradictoires, qu'ils seraient perpétuellement sereins. Et en même temps, ce bonheur qui leur est attribué se découpe, si j'ose dire, sur un fond d'indifférence. Est-ce qu'ils sont anesthésiés ou est-ce qu'ils sont véritablement heureux? Ça, c'est une chose, là aussi, souvent peu décidable, pas plus que le rapport entre présence et absence, entre parole et silence ou entre dénuement et toute puissance. Alors, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure sur parole et silence, je vous lis quelques pages d'un récit ou de la manière dont j'ai mis en récit un épisode par ailleurs fort célèbre de la vie du Bouddha, où un moine, ça nous est raconté dans plusieurs des canons bouddhistes, qui s'appelle Malunkya, vient poser au Bouddha une question à laquelle, vous allez voir, il ne répond pas. Il se tait face à cette question, mais pas n'importe comment. Vallée du Gange, fin du 5e siècle avant notre ère. Malunkya est un brave moine, discipliné, fidèle, sans histoire. Pas une tête brûlée ni un esprit instable. Depuis qu'il a rejoint la communauté du Bouddha, il y a plusieurs années déjà, il n'a provoqué aucun incident. Aucune querelle ne l'a opposé aux autres. Aucun manquement aux règles de la vie collective n'a conduit à le rappeler à l'ordre. Au contraire, tout le monde connaît son calme, sa compassion envers chaque être vivant, sa droiture. Pourtant, cette nuit, Malunkia ne dort pas. Une question le tourmente, elle l'a éveillé en sursaut et il n'arrive plus à la chasser. Il a tout essayé, il s'est appliqué à laisser filer ses pensées comme des oiseaux dans le ciel. Il s'est efforcé de les contempler comme les nuages qui glissent avant que son esprit ne redevienne limpide et sans forme. Impossible, rien à faire. La même inquiétude revient et le tourmente. Pourquoi le bienheureux ne répond-il jamais à certaines questions? Ce sont toujours les mêmes, en particulier celle-ci. L'âme est-elle mortelle ou immortelle? Notre maître le sait. Oui, forcément, il le sait, puisqu'il a atteint l'éveil, contemplé la nature des choses, scruté le déroulement du monde. Il le sait, alors pourquoi ne le dit-il pas? Quand on le lui demande, il se tait. Ce n'est pas juste, ce n'est pas supportable. Je suis assez vieux à présent pour savoir. Je suis auprès de lui depuis bien des années, je suis un bon moine, j'ai le droit de savoir. Demain, je lui poserai la question. Et si jamais il refusait de me répondre, je quitterais la communauté. Un maître qui refuse de répondre n'est pas un bon maître. Celui qui refuse de partager ce qu'il sait est arrogant, ou rusé, ou pervers. Malunkia roulait sans cesse ces questions dans son esprit et demeura ainsi toute la nuit sans dormir. Quand le soleil fut levé, il prit son bâton, sa tunique, son bol et il alla voir le Bouddha pour l'interroger. Le Bouddha n'eut pas l'air surpris. Il n'avait d'ailleurs jamais l'air surpris. Tu veux donc savoir aujourd'hui même, Malunkia, si l'âme est mortelle et immortelle. Tu es convaincu que je le sais et que je dois te le dire. Sinon, tu t'en vas. Parce que tu estimes que si je faisais silence, je ne mériterais plus ta confiance. C'est bien cela? Oui, bienheureux, c'est cela exactement. Alors, le Bouddha commença par demander au moine si cela faisait partie de leur accord initial. Était-ce donc pour savoir cela que Malunkia était venu vivre dans la communauté? Il reconnut que non. Le Bouddha voulait lui faire entendre que cette question, en quelque sorte, n'était pas dans leur contrat. Si le Bouddha avait un jour promis d'y répondre, et qu'il n'eût pas tenu parole, ou si lui, Malunkia, était devenu moine pour connaître la vérité sur ce point, alors il serait en droit de protester. Mais ce n'était pas le cas. Quel est donc ce soudain désir de savoir qui taraude un moine en pleine nuit, l'empêche de fermer l'œil, le conduit même à poser à son maître une sorte d'ultimatum? Alors, comme le moine ne se calme pas et continue à être tourmenté par cette question et la poser, le Bouddha lui raconte une histoire devenue célèbre dans la littérature bouddhiste, l'histoire de l'homme blessé d'une flèche. Un homme vient d'être blessé d'une flèche. Elle est fichée dans sa poitrine. Il perd son sang. Sa famille et ses amis l'entourent en attendant l'arrivée du chirurgien. Cette flèche, il va falloir l'ôter, extirper le métal qui s'est enfoncé dans la chair. Mais l'homme, pour sa part, s'est mis en tête de curieuses questions. « Je ne veux pas qu'on m'ôte cette flèche, dit-il, avant qu'on m'ait dit. « Du bois de quel arbre elle a été taillée? Des plumes de quel oiseau l'empennage a été fabriqué? De l'alliage de quel métaux la pointe a été composée? Et je veux savoir encore, avant toute intervention, qui l'a lancé? Quel est son nom? De quel village est-il? De quelle famille? Que font ses parents? Qui sont ses amis? Ses ennemis? Quels sont les mobiles de son geste? Que doit faire le chirurgien, à ton avis? Il ne peut que dire à cet homme, avide de savoir tant de choses inutiles, « Tu seras mort de ta blessure avant d'avoir reçu des réponses à toutes ces interrogations. » Et ce que veut dire le Bouddha, évidemment, c'est que toutes ces questions que nous avons l'habitude de considérer comme des questions métaphysiques sont sans importance, en quelque sorte, sans utilité à ses yeux, pour la seule chose qui compte à ses yeux toujours, c'est-à-dire de retirer la pointe de la flèche qui serait comme l'image du malaise de l'être humain, de sa souffrance et de son mal-être. Et on n'a pas besoin, aux yeux du Bouddha, pour faire cela, pour opérer, si j'ose dire, chirurgicalement de cette manière, de savoir les tenants et les aboutissants des questions qui sont celles, sinon de la métaphysique, au moins plus généralement aussi, de la philosophie. Alors, autour de ces paradoxes, on commence, je l'espère, à voir que entre sage et philosophe, entre Occident et Orient, les points communs existent, mais les ajustements ne sont pas parfaits et de loin. Et toute une suite de ce livre consiste à essayer, je vais en résumer les grandes lignes, à réfléchir sur le destin différent de la figure du sage en Occident et en Orient. Ce qui s'est passé dans notre histoire pour que ces figures de sages et leurs paradoxes passent au second plan, c'est d'abord la naissance même de la philosophie. Et les rapports entre sages et philosophes sont des rapports à la fois ambigus et parfois compliqués. En apparence, les philosophes ont en quelque sorte quitté le monde des sages inspirés, des sages comme ça, maîtres de vérité, comme dit Marcel de Tienne. Et le terme même de philosophe signifie qu'ils ont, c'est comme si on disait, il y avait des sages, mais nous ne savons plus la recette, nous connaissons juste l'horizon ou le chemin, et n'étant plus sages, nous désirons le devenir. Nous sommes philosophes, ce qui signifie qui aime ou qui désire la sagesse. Cette explication, qui est bien connue et traditionnelle, ne me satisfait qu'à moitié. Il est vrai qu'il y a ces écarts et ces différences, mais il est vrai aussi que dans l'Antiquité grecque et latine, on pourrait dire que les sages, par rapport aux philosophes, sont derrière, mais en un certain sens, ils sont aussi devant. Parce que, qu'il s'agisse de Platon, d'Aristote, mais plus encore des écoles de sagesse épicurienne, stoïcienne, sceptique même, cynique aussi, le but affiché, constant, de la philosophie, dans sa démarche rationnelle, c'est finalement de parvenir à devenir sage. C'est ce dont les stoïciens ne cesse de rêver, et on pourrait dire qu'un des paradoxes de la philosophie grecque serait finalement d'avoir opéré une sorte de, je n'ose dire, de récupération, c'est un peu un terme excessif et rapide, mais après tout, pour aller vite, je vais l'utiliser, une sorte de récupération de la figure du sage. Si tu veux devenir sage, alors vis sous la conduite de la raison, sois philosophe pleinement, et tu finiras par atteindre ce but. Et ce qui a, dans l'histoire occidentale, là aussi c'est à très grand trait, mais pour vous donner une brève idée, un aperçu de l'architecture d'ensemble, ce qui, dans l'histoire occidentale, a mis au second plan, à l'arrière, c'est à estomper cette figure du sage antique, c'est la christianisation de notre culture, c'est l'arrivée de la figure du saint, qui est tout à fait différente. Le saint, ça n'est pas le sage antique. Le sage antique, il se construit aussi bien en Occident qu'en Orient à horizon humain. Il ne se construit pas dans l'idée d'un message divin, d'une vie éternelle. Il est d'abord ancré dans une réalité toute humaine, qu'il essaye de porter à sa perfection, qu'il essaye de magnifier, de réaliser dans la totalité de sa plénitude. Mais si l'on voulait mettre en parallèle, très concrètement, deux figures, Diogène, dans son aspect provocateur de sage grec, ou d'homme qui est en voyage vers la sagesse, et puis une figure de saint de quelques siècles plus tard, qui est Siméon le Stylite, celui qui, parmi les pères du désert en Syrie, est censé avoir passé 36 ou 7 ans, je crois, en haut d'une colonne. Ils ont en commun tous les deux d'exposer leur corps au froid de l'hiver comme à la rudesse du soleil du plein été. Mais si on regarde le sens qu'a de chaque côté cette espèce d'exercice physique pénible, chez Diogène, il s'inflige ce type de peine pour s'endurcir afin de souffrir moins. S'il se roule dans le sable brûlant l'été, c'est pour dire si je vais m'endurcir, m'accoutumer à supporter cette dureté, et du coup je serai aguerri, j'aurai moins chaud, ou s'il fait froid et que je me suis accoutumé à la neige ou à la glace, j'aurai moins froid. C'est en un sens un principe de confort. Siméon le Stylite, il est lui aussi dans la bise glacée de l'hiver ou dans les chaleurs taurines du désert sur sa colonne. Mais il offre à Dieu la mortification de son corps, les souffrances il cherche en quelque sorte, non pas du tout à s'aguerrir, mais à souffrir le plus possible pour pouvoir se mortifier et offrir cette souffrance comme acquisition ou signe de sa sainteté. On est donc dans des, me semble-t-il, sur ce cas précis, simple, enfin, dans des perspectives qui sont radicalement différentes. Et ce qui a, en quelque sorte, fini de mettre pour nous la figure du sage à l'écart ou un peu loin dans notre horizon, il me semble qu'en Occident, c'est bien évidemment la constitution à côté du philosophe purement théoricien, purement rationnel, la figure de l'homme de science et du savant. Sophia, en grec ancien, signifie à la fois la sagesse et le savoir. Sophos, c'est celui qui sait, mais qui à la fois sait au sens des connaissances accumulées, mais aussi de la sagesse qui est d'un savoir qui transforme son existence. Et les deux sont rigoureusement indissociables pour un grec. Si tu sais vraiment des choses qui importent et des choses vraies, alors ça te change, y compris de la géométrie. Quand Platon met au fronton de son école que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, c'est pas seulement du tout pour dire qu'il faudrait s'entraîner au raisonnement avant d'entrer. C'est parce qu'il y a cette idée que le rapport à la connaissance rationnelle vraie a une vertu éthique profonde de transformation de l'individu. Quand Socrate, dans le Gorgias, dit à Calliclès qui finalement fait l'éloge des politiques de domination, fait l'éloge de l'ambition démesurée, personnelle. Si tu parles ainsi, c'est que tu ignores la géométrie. Ça veut dire celui qui connaît quelque chose de l'ordre mathématique, mais donc aussi pour Platon des proportions du monde, a en quelque sorte, en même temps, dans ce savoir, une justice et une forme d'éthique qui y est intégrée. Ceci est pour nous fini. Ceci est quelque chose que nous n'avons évidemment plus associé. Nous imaginons tout à fait bien qu'on ait une grande connaissance, une masse de savoir scientifique et qu'on soit un salaud d'un point de vue humain. Ou même, pour caricaturer un peu, l'image du savant fou dans la science-fiction ou les bandes dessinées. Voyez, je vais appuyer sur ce bouton et je serai le maître du monde. Tous les enfants connaissent ça. Le savant fou, c'est quelque chose qui est rigoureusement impensable dans l'horizon de pensée grecque. S'il est savant, il va être sage. S'il est sage, c'est qu'il sait des choses essentielles. Ça, c'était évidemment quelque chose que nous avons tout à fait dissocié dans notre histoire. Est-ce que, sur le versant oriental, les choses sont différentes ? Je ne peux pas résumer en trois phrases, mais je dirais de façon très ramassée qu'il y a moins de parcours compliqués. Il y a moins de brisures, si vous voulez, de zigzags vis-à-vis de la continuité de l'image des sages. Parfois, elle est perdue, ternie, mais plutôt par l'usure des siècles. Alors, il faut revenir vers les origines du bouddhisme, il faut nettoyer, si j'ose dire, la figure du sage, il faut retrouver l'esprit de départ ou celui des fondateurs. Mais toute l'histoire, par exemple, du zen japonais n'est que la volonté de revenir à quelque chose qui était aux sources du bouddhisme. Alors, peut-être que ce retour est lui-même une forme de réélaboration, d'invention, un retour un peu décalé, mais il n'y a pas du tout, si vous voulez, cette perturbation du rapport à l'image du sage par le saint ou le philosophe rationnel ou l'homme de science. Pour finir, je voudrais très succinctement, avant de vous laisser la parole, poser, comme je le fais dans ce livre, la question est nous. Est-ce que, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore, en quelque sorte, fascinés par ces figures de sages? Évidemment, oui, mais est-ce que c'est toujours pour de bonnes raisons? Voilà ce qui serait à chercher. Il y a une mauvaise, à mes yeux, une mauvaise nostalgie ou une mauvaise façon de vouloir échapper à notre histoire en allant se réfugier dans l'imaginaire d'un monde où de grands sages antiques seraient en quelque sorte dans la sérénité permanente, l'absence de conflits. C'est compréhensible, c'est légitime, ça n'est pas condamnable, mais notre monde est difficile, dur, chaotique, angoissant, bavard, et on rêve d'un monde serein, silencieux, stable et dépourvu d'angoisse comme celle de notre réalité. Si il s'agit simplement de fuir le présent, l'histoire et les conflits, je ne suis pas du tout sûr qu'il s'agisse d'une bonne fascination. En tout cas, de ce point de vue-là, je ne la partagerai pas si elle constitue un échappatoire. Alors, je me suis plutôt posé la question, et je vous avoue avoir quelques éléments de réponse, mais sûrement pas la solution. À quelles conditions cette figure des sages, aujourd'hui éloignée, peut-être même tout à fait éloignée, pourrait-elle se métamorphoser? Pourrait-elle revenir au prix d'un certain nombre de mutations? Deux mutations principales, si des sages pouvaient réexister dans notre monde moderne, il me semble que ça ne serait qu'à la condition de réintégrer l'histoire. C'est-à-dire de ne plus être dans cette idée qu'il y a une sagesse éternelle, une fixité permanente, mais que, à l'intérieur des époques de l'évolution historique, il y a à inventer à chaque fois des figures ou des modalités de continuité de la sagesse. Et puis enfin, il me semble que ce serait aussi à la condition de prendre en compte le politique, le et la politique. Je ne crois pas d'ailleurs que ça soit une nouveauté. Nous avons tendance à imaginer, dans notre imaginaire des sages, enfin notre représentation, qu'ils sont tout à fait coupés des réalités, même des réalités politiques de leur temps. C'est le cas de certains, mais pas de tous. Notamment une figure comme celle de Marc Aurèle, qui était à la fois empereur et philosophe stoïcien, et qui se préoccupait de sagesse, quoique... On pourrait dire, Marc Aurèle, encore, est-ce que sa conduite du pouvoir était véritablement différente de celle, sur certains points, de celle des autres empereurs, sur certains points, oui, mais pas fondamentalement. C'est peut-être en Inde, chez Ashoka, je ne sais pas si vous connaissez la figure de l'empereur Ashoka, auquel je... consacre là un texte, mais je ne vais peut-être pas le lire maintenant parce que ça serait trop long. C'est un empereur qui a réellement existé, premier siècle environ de notre ère, et qui, après avoir été, c'est la dynastie des Mauryas, un empire qui va de l'actuel Afghanistan jusqu'au sud de l'Inde et à Sri Lanka, donc bon, incluant l'Assam, enfin un territoire absolument considérable, et qui, arrivant sur le trône, commence à être un jeune homme extrêmement cruel, qui trahit ses amis, qui exile ceux qui lui font un peu d'ombre, qui tue, comme c'est souvent le cas, tous ceux qui lui font un peu trop d'ombre, qui trahit la parole donnée, qui rompt les alliances contractées. Enfin, il se construit pas une très belle réputation. Et puis, il mène une guerre dans ce qui correspond à l'actuel territoire de l'Orissa, en Inde, pour conquérir cette partie, le nord-est de l'Inde, c'est une région montagneuse, et une guerre d'une férocité qui a laissé encore de très nombreuses fresques et récits. On parle de 100 000 morts plus 100 000 autres des suites de la guerre, on n'a aucun moyen de vérifier ces chiffres, mais c'est considérable. Et là, il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant sur la réflexion possible des rapports entre sagesse et politique. Ce jeune empereur se rend compte que cette victoire militaire est une défaite humaine. Et il décide, en quelque sorte, de tout changer. dans la suite de son règne, et il ouvre des hôpitaux pour les hommes, mais des hôpitaux pour les animaux. Il décide de ne plus tuer aucun animal pour les cuisines du palais. Et surtout, et c'est ça qui peut être intéressant, il a essaimé tout au long des territoires qu'il contrôlait des piliers avec ses pensées, les édits d'Ashoka qui ont été édités, rassemblé, traduit et édité dès 1838 par l'anglais James Prinsep, texte connu, mais peut-être pas assez connu. Qu'est-ce qu'on lit sur ces piliers? Toute une série, je crois, de préceptes qui sont toujours valables et qui pourraient donner l'idée de ce que serait une politique des sages. Il dit par exemple, celui qui affirme que sa religion est la meilleure, déshonore sa religion. Il affirme aussi la nécessité, finalement, d'une tolérance et d'une coexistence non seulement des populations, mais des convictions les plus différentes. Et il me semble, je terminerai là-dessus, que certaines des figures modernes, les plus proches de la figure du sage, par exemple Gandhi, par exemple le Dalai Lama, par exemple Martin Luther King, peut-être aujourd'hui Aung San Suu Kyi, sont pas simplement des gens qui sont retirés du monde, pas simplement des gens qui ont un rapport spéculatif à la sagesse, mais ce sont aussi des figures politiques. Ce sont aussi des figures engagées dans des luttes d'émancipation. Et ce sont des figures qui ne sont ni tout à fait et entièrement politiques et militantes, ni tout à fait et entièrement de simples figures spirituelles sans action sur le monde. Je n'ai bien évidemment pas de recette, ni d'autres solutions, mais cette idée que si il y a aujourd'hui la possibilité peut-être d'un retour de cette figure du sage, il passerait, me semble-t-il, par ce type de transformation qui touche aux politiques.